VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, 33 réfugiés somaliens ont péri au large du Yémen lorsque leur embarcation a été visée jeudi soir par un hélicoptère. Selon un garde-côte affecté à une zone contrôlée par les miliciens houthis en territoire yéménite, Mohamed Al-Alaï a déclaré à l'agence Reuters que les réfugiés porteurs de documents officiels du HCR se rendaient du Yémen au Soudan lorsqu'ils ont été attaqués par un hélicoptère Apache près du détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge. Selon un marin qui était à bord du bateau, 80 réfugiés ont été secourus. Aucune information ne permet dans l'immédiat d'attribuer la responsabilité de la frappe aérienne. Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais est pour une large part responsable de la famine qui sévit dans certaines zones du pays, alors que le président Salva Kiir continue de puiser dans la rente pétrolière pour acheter des armes. C'est ce qu'estime un rapport confidentiel des Nations Unies. Les experts de l'ONU chargés de surveiller les sanctions estiment que 97% des revenus déclarés du Soudan du Sud proviennent des ventes de pétrole et qu'au moins la moitié du budget, et sans doute bien plus, est consacrée à la défense. Les Nations Unies ont déclaré plusieurs régions sud-soudanaises en état de famine et affirment que près de la moitié de la population souffre de pénurie alimentaire. Politique en RDC maintenant, après un mois et demi de suspension, les pourparlers de sortie de crise dans le pays ont repris jeudi à Kinshasa sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo. Les évêques congolais ont exhorté majorité et opposition à cesser leur marchandage et à travailler à l'application de l'accord de cogestion du pays et à l'organisation de la prochaine présidentielle. À l'occasion de ces nouvelles discussions, les évêques soulignent leur intention de déceler toutes les manœuvres dilatoires visant à retarder l'application de l'accord et s'engagent à établir désormais les responsabilités de ceux qui seront à la base d'éventuels blocages. De passage à Washington, Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme, met l'accent sur la responsabilité du pouvoir à Kinshasa.
C'est malheureux que la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo aujourd'hui bloque la mise en œuvre du dialogue. En 2017, nous pensons que c'est une date irrévocable. Si les politiciens veulent trouver leur combine pour aller au-delà de ce qui est inscrit dans l'accord du 31 décembre, il faut qu'ils se rappellent que la population est très attachée à cet accord. Parce que n'eût été cet accord, je pense qu'on aurait parlé d'autre chose en République démocratique du Congo. Notamment, on aurait parlé d'une révolution en République démocratique du Congo.
Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme. Gabon, les syndicats gabonais ont demandé à plusieurs institutions internationales d'exercer des pressions sur les autorités de Libreville pour faire respecter les droits des travailleurs et les droits de l'homme. C'était dans un communiqué reçu jeudi. John Lyndon.
Proche de l'opposition, la Confédération syndicale dynamique unitaire dénonce des grèves réprimées par les forces de l'ordre, notamment l'intervention policière fin février contre les grévistes de l'entreprise pétrolière Morel et Prom, ou la suspension par le gouvernement des salaires de 807 enseignants grévistes de l'enseignement public. Elle appelle ces institutions, dont l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail, à exercer des pressions multiformes, voire à porter plainte contre le gouvernement gabonais pour faire respecter les droits des travailleurs, les droits de l'homme, l'état de droit et les valeurs démocratiques. Le communiqué des dynamiques unitaires intervient une dizaine de jours avant le lancement du dialogue politique proposé par M. Bongo après sa réélection en août face à son rival Jean Ping, qui conteste toujours le résultat de la présidentielle et qui a annoncé qu'il boycotterait ce forum.
Afrique du Sud, la plus haute instance judiciaire sud-africaine a mis aujourd'hui un terme provisoire à la controverse autour du versement des aides sociales à 17 millions de personnes. Controverse qui nourrit depuis des semaines le procès en incompétence du gouvernement. L'arrêté de la Cour constitutionnelle assure le versement, menacé d'interruption, des aides sociales au-delà du 1er avril. Le paiement de ces allocations sociales est un facteur de la popularité toujours très forte du Congrès national africain ANC, qui dirige le pays depuis la chute officielle de l'apartheid en 1994.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, l'ONU a mis en garde hier l'administration Trump contre une réduction abrupte de ses financements. Le projet américain de budget récemment dévoilé prévoit de réduire la contribution des États-Unis aux missions de l'ONU. Eric Manirakiza.
Washington ne participerait pas à plus de 25% des coûts des opérations de maintien de la paix. Cette baisse drastique des ressources allouées à l'ONU risque d'entraîner l'adoption de mesures qui saperont l'impact à long terme des efforts de réforme et de l'organisation, a averti Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. Pour l'ambassadeur français à l'ONU, le retrait et l'unilatéralisme de l'Amérique conduiraient à l'instabilité de l'ordre mondial. François Delattre a estimé que l'on a plus que jamais besoin d'une ONU forte et d'une Amérique qui demeure engagée dans les affaires du monde. Antonio Guterres tente l'auto pour l'auto pour dissuader la nouvelle administration de Washington. Il se tient prêt à discuter avec les États-Unis et avec tout autre État membre pour convenir la meilleure manière de créer une organisation plus rentable en vue de poursuivre les objectifs communs.
Le président Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel vont se rencontrer ce vendredi à la Maison-Blanche pour leur premier face-à-face. L'enjeu est de taille compte tenu des déclarations du candidat Trump l'an dernier sur l'OTAN et les relations transatlantiques.
Les différences sont évidentes. Donald Trump prône l'Amérique d'abord. Angela Merkel défend le libre-échange. Ils n'ont pas toujours dit du bien l'un de l'autre. On se souvient de cette accusation de Donald Trump durant la campagne électorale.
J'étais autrefois un fan de Merkel. Je croyais qu'elle était un leader fantastique. Je pense maintenant que ce qu'elle a fait à l'Allemagne est une disgrâce.
La chancelière non plus n'a pas été tendre en décrivant le décret de Donald Trump sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, les deux leaders sont obligés de joindre leurs forces pour faire face aux questions les plus urgentes de l'heure, d'où le nouveau ton conciliant de Mme Merkel. Autant donc s'attendre à un temps de compromis aujourd'hui à la Maison-Blanche sur la viabilité de l'OTAN, par exemple, que Trump a qualifié de surannée, et aussi sur le commerce. Néanmoins, les Européens veulent être pris en bloc, alors que Trump privilégie les accords bilatéraux.
On passe maintenant au sport en Afrique et au football en particulier avec la nouvelle du remplacement d'Issa Hayatou à la tête de la CAF par le malgache Ahmad Ahmad. Les explications de l'expert sportif Alain Maradas.
On s'attendait à ce que Issa Hayatou rempile. Les enjeux sont là et puis les jeunes fédérations qui sont au pouvoir en ce moment en Afrique trouvent qu'après plusieurs années à la tête de la Fédération africaine de football, Issa Hayatou devrait céder sa place à quelqu'un de jeune, à quelqu'un qui serait peut-être beaucoup plus proche de leur attentement. Et c'est peut-être ça qui a peut-être milité pour le succès de son opposant, le malgache Ahmad Ahmad. Ça a été une surprise, c'est vrai, mais une surprise pour ceux qui connaissent le football, pour ceux qui connaissent la politique du football africain. Ce serait peut-être pas une surprise vu ce qui s'est passé à Zurich en 2015 avec l'arrivée au pouvoir de M. Gianni Infantino. Donc, il avait soutenu son adversaire et là, dire qu'il a soutenu peut-être son opposant, il manque peut-être un petit pas à franchir.
Alors, vous avez parlé de la politique du football africain. C'est une politique dont Issa Hayatou était le maître.
Mais tout à fait. Issa, à son arrivée en 1988 à la tête de la Confédération africaine, il a instauré une politique de clientélisme autour de lui et aujourd'hui, il a payé un peu à cause de cette politique qu'il a instaurée autour de lui. Néanmoins, tout au long de ses mandats, Issa a fait des très bonnes choses pour le continent africain. Grâce à lui, nous avons pu organiser la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Oui. Grâce à lui, l'Afrique a pu obtenir les 5 places pour la participation aux Coupes du Monde. Et grâce peut-être à lui aussi, aujourd'hui, on aura plusieurs représentants africains au niveau du comité exécutif de la FIFA.
Est-ce qu'il va falloir penser à des réformes de la CAF pour éviter une telle longévité dans le futur?
Écoutez, la FIFA a déjà instauré cette limitation de nombre de mandats. On parle aujourd'hui de 3 mandats au lieu de nombre de mandats illimités, comme ce fut le cas pour Issa Hayatou de 88 à aujourd'hui. Donc, son successeur, s'il a un peu de chance, il va peut-être briguer 3 mandats. S'il n'en a pas, 3 mandats suffiraient largement de faire des bonnes choses.
Emmanuel Maradas, consultant du football au micro de Bagassi Koura. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.